le crépuscule s'intensifiant. L'immense visage sculpté le regardait d'un air que les ombres rendaient encore plus solennel. La nuit trouva l'arpenteur des contrées du rêve toujours perché sur sa corniche. Il faisait si sombre qu'il ne pouvait ni monter ni descendre, mais seulement se tenir debout, frissonnant, cramponné à cette étroite saillie. Il attendait le jour, priant pour rester réveillé de crainte que le sommeil ne lui fasse lâcher prise et ne le précipite après plusieurs lieues de vide vertigineux sur les flancs escarpés et les rochers effilés de la vallée maudite. Les étoiles apparurent une à une, mais en dehors de leur lumière, il ne voyait qu'un néant noir, un néant qui s'était ligué à la mort pour l'appeler. Contre eux, il ne pouvait rien faire d'autre que s'accrocher aux rochers et rester le plus à l'écart possible d'un bord qu'il ne parvenait pas à distinguer. La dernière chose qu'il vit de la terre, dans cet impressionnant crépuscule, fut un condor qui filait vers les hauteurs inaccessibles du précipice s'ouvrant sur sa gauche et qui, après s'être approché tout près de la gueule béante de la caverne, s'en écarta brusquement en criant. Soudain, sans qu'aucun bruit ne vienne troubler la nuit, Carter sentit une main invisible tirer furtivement son cimeterre de son fourreau. Un instant plus tard, il l'entendit dégringoler sur les rochers, tout en bas. Alors il crut voir se dessiner, contre la voie lactée, la silhouette absolument terrifiante d'une créature d'une maigreur abominable, cornue, dotée d'ailes de chauve-souris et d'une queue. Sur sa gauche, d'autres bêtes avaient commencé à masquer les étoiles. C'était comme si l'inaccessible caverne perchée en haut du précipice vomissait un troupeau entier de vagues entités qui s'approchaient de lui en battant l'air silencieusement. Puis une sorte de bras froid et caoutchouteux le saisit par le cou, tandis qu'autre chose l'attrapait par les pieds. Il fut alors soulevé dans l'espace et balancé de droite et de gauche à des hauteurs inconcevables. Une minute plus tard, les étoiles disparurent et Carter comprit que les maigres bêtes de la nuit s'étaient emparées de lui. Le souffle court, il fut emmené dans la caverne ouverte sur la falaise, puis à travers de monstrueux dédales. Quand il se débattait, comme il l'avait tout d'abord fait par instinct, les maigres bêtes de la nuit le chatouillaient avec résolution. Mais elles-mêmes ne faisaient aucun bruit. Même leurs ailes membraneuses battaient l'air en silence. Elles étaient effroyablement froides, humides et glissantes, et leurs pattes avaient une façon de vous pétrir absolument abominable. Elles effectuèrent rapidement un horrible plongeon à travers d'inconcevables abîmes, en un étourdissant et écœurant tourbillon d'air humide à la puanteur sépulcrale. Carter eut alors la conviction qu'elle le précipitait vers l'ultime vortex de la folie hurlante et démoniaque qui se trouve dans le vide ultime. Il poussa force cris de terreur, mais chaque fois, les pattes noires le chatouillaient avec un raffinement renouvelé. Puis il vit une sorte de phosphorescence grise sourdre des environs, et devina qu'ils arrivaient en réalité dans ce monde intérieur de l'horreur souterraine auquel de vagues légendes faisaient allusion. Un monde éclairé par un pâle feu de mort d'où s'échappent les vapeurs fétides et les brumes primitives des fosses du centre de la terre. Enfin, loin au-dessous de lui, il vit se dessiner les contours de terrifiants sommets gris, et il reconnut les fabuleux pics de Troc. Affreux et sinistre, il se dresse dans le crépuscule hanté de ces éternelles profondeurs sans soleil. Gardien des terribles vallées où les dôles rampent et fouissent cruellement, il s'élève plus haut que l'homme ne peut le concevoir. Carter préférait cependant leur vue à celle de ses ravisseurs, qui se révélèrent des choses noires, repoussantes et grotesques, dont l'épiderme doux et huileux rappelait celui des baleines. Ces créatures étaient dotées de très vilaines cornes recourbées l'une vers l'autre, d'ailes de chauve-souris qui battaient l'air silencieusement, d'horribles pattes préhensibles et d'une queue barbelée qui fouettait l'air de manière inquiétante et sans raison aucune. Le pire était qu'elle ne parlait, ne riait ni ne souriait jamais, car elle ne disposait d'absolument rien pour se faire, n'ayant qu'un vide évocateur à la place du visage. Elle ne pouvait que saisir, voler et chatouiller. Telles étaient les maigres bêtes de la nuit. Alors que la horde commençait à descendre, les pics de troc la dominèrent soudain de toute la hauteur de leurs imposants flancs gris. Il était évident que rien ne vivait sur l'austère et impassible granit de cet éternel crépuscule. Un peu plus bas, leur vol les amena dans ces territoires que les lueurs du feu de mort n'éclairaient pas. Régions où l'on ne rencontrait que l'obscurité primitive du vide d'avant l'univers, sauf dans les hauteurs où les pics escarpés ressemblaient à des gnomes. Puis les pics s'effacèrent à leur tour, ne laissant que des vents soufflant en tempête, chargés de l'humidité des grottes des tréfonds de la terre. Leur voyage prit fin lorsque les maigres bêtes de la nuit se posèrent sur un sol jonché de choses invisibles, probablement des ossements. Là, dans cette vallée de ténèbres, elles abandonnèrent Carter. Les maigres bêtes de la nuit qui gardaient le Ngranek avaient pour mission de le conduire en ce lieu. Leur tâche accomplie, elles s'envolèrent silencieusement. Carter essaya bien de les suivre des yeux, mais il en fut incapable, car les pics de troc eux-mêmes étaient maintenant hors de vue. Seul restait l'obscurité, l'horreur, le silence et les ossements. Grâce à une certaine source, Carter savait qu'il se trouvait dans la vallée de Pnot, où rampent et fouissent les énormes dôles. En revanche, il ne savait à quoi s'attendre, car personne n'avait jamais vu de dôle, ni même essayé d'imaginer à quoi il ressemblait. On ne les connaît que par le truchement de vagues rumeurs, qui évoquent la sorte de bruissement qu'ils produisent en se déplaçant dans les montagnes d'ossements, et la traînée gluante qu'ils vous laissent dessus après s'être tortillés sur vous. On ne peut pas les voir parce qu'ils ne rampent que dans le noir. Carter n'avait vraiment aucune envie de se retrouver nez à nez avec un dôle. Aussi dressa-t-il l'oreille, à l'affût du moindre bruit susceptible de remonter des insondables profondeurs du désert d'ossements qui l'entourait. Même en ce lieu terrifiant, il avait un plan et un objectif, car une de ses anciennes connaissances lui avait souvent parlé dans le passé des différentes légendes qui couraient sur la vallée de Pnot. En bref, selon toute vraisemblance, on l'avait abandonné à l'endroit précis où toutes les goules du monde de l'éveil jetaient les reliefs de leur plantureux festin. Avec de la chance, il pourrait tomber sur cet incroyable amoncellement d'os, encore plus élevé que les pics de troc, qui marquent la frontière de leur territoire. Pour le trouver, il n'aurait qu'à se fier aux cascades d'ossements qui chutaient des hauteurs. Une fois qu'il l'aurait repéré, il lui suffirait de héler une goule pour lui demander de faire descendre une échelle. En effet, aussi étrange que cela paraisse, il était lié de manière assez particulière avec ces terribles créatures. À Boston, il avait connu un peintre, dont les étranges tableaux s'entassaient dans un atelier secret situé dans une vieille ruelle maudite à côté d'un cimetière, qui s'était effectivement lié d'amitié avec les goules. Ce bostonien avait enseigné à Carter les bases de leur langage, constitué de borborygmes et de jappements. Il avait fini par disparaître, et Carter se demandait, s'il le retrouvait, s'il saurait encore se servir, pour la première fois dans les contrées du rêve, de ce lointain anglais qu'il parlait dans sa triste vie du monde de l'éveil. De toute façon, il pensait pouvoir persuader une goule de le guider hors de Pnot. Et mieux valait tomber nez à nez avec une goule qu'on pouvait voir qu'avec un dôle invisible. Carter se mit donc à marcher dans l'obscurité, puis à courir, quand il crut entendre quelque chose bruire parmi les eaux. Soudain, il buta sur une pente rocheuse et se dit que ce devait être le pied d'un des pics de troc. Enfin, il entendit un fracas monstrueux, un vacarme qui remontait très haut dans les airs. Il sut alors de façon certaine qu'il était arrivé tout à côté du rocher des Goules. Il ignorait s'il pourrait se faire entendre depuis cette vallée située à plusieurs miles de profondeur, mais se rappela que les terres inférieures obéissent à d'étranges lois. Tandis qu'il réfléchissait, il fut frappé par un os si lourd qu'il devait s'agir d'un crâne. Comprenant alors combien il était proche du rocher dont son sort dépendait, il poussa du mieux qu'il put l'appel de la goule, une sorte de borborygme. Le son voyage lentement. Aussi s'écoula-t-il un certain temps avant qu'un autre gargouille lui parvienne en retour. Mais il finit par arriver, et on lui annonça bientôt qu'une échelle de corde allait être descendue. Il l'attendit avec une nervosité croissante, car qui pouvait dire si ses cris n'avaient pas alerté quelque créature parmi les ossements? En effet, il entendit très rapidement un vague bruissement au loin. Et comme cela se rapprochait de manière déterminée, Carter se sentit de plus en plus mal à l'aise. Il n'avait aucune envie, en effet, de s'éloigner de l'endroit où l'échelle devait être descendue. L'attente devenant quasi insoutenable, il fut sur le point de céder à la panique et de s'enfuir. C'est alors qu'un choc sourd au niveau de la couche d'ossement la plus fraîche attira son attention, lui faisant oublier le bruissement qui approchait. C'était l'échelle, et après une minute passée à tâtonner dans l'obscurité, il finit par s'y agripper fermement. Mais le bruissement ne s'arrêta pas pour autant, et le suivit alors même qu'il grimpait. Carter s'était déjà élevé de 5 bons pieds au-dessus du sol lorsque le bruit d'ossements entrechoqués s'amplifia considérablement. Et il se trouvait à 10 bons pieds de hauteur quand, au-dessous de lui, quelque chose secoua l'échelle. Il devait être à une hauteur de 15 ou 20 pieds lorsqu'il sentit quelque chose le frôler. Quelque chose d'incroyablement long et visqueux qui se contorsionnait et se tordait dans tous les sens pour l'attraper. Alors il se mit à grimper avec l'énergie du désespoir, s'efforçant d'échapper aux effroyables palpations de ce gras et répugnant dôle dont jamais aucun homme ne pourrait voir la forme. Il grimpa pendant des heures, durant lesquelles ses mains douloureuses se couvrirent d'ampoules. Puis il revit la pâle lueur grise du feu de mort et les inquiétants pics de troc. Enfin, juste au-dessus de lui, il discerna le grand rocher des nécrophages, qui s'avançait en surplomb et dont il ne pouvait voir la paroi verticale. Quelques heures plus tard, il aperçut un curieux visage qui le considérait avec intérêt depuis le rebord du rocher, telle une gargouille penchée par-dessus les parapets de Notre-Dame. Il faillit s'évanouir de terreur et lâcher prise, mais il se reprit rapidement. En effet, son ami disparu, Richard Pickman, l'avait un jour présenté à une goule, ce qui lui avait permis de se familiariser avec leurs faciès canins, leurs formes affaissées et leurs mœurs inqualifiables. Il resta donc maître de lui-même lorsque cette chose hideuse le tira hors du vide vertigineux pour l'aider à monter sur le rocher, et ne cria pas de terreur en voyant les déchets à moitié grignotés qui s'entassaient près du vide, ni en apercevant les cercles de goules accroupis qui le regardaient avec curiosité, tout en rongeant on ne savait quoi. Il venait d'échouer sur une plaine où régnait une douce pénombre, et dont les seules caractéristiques topographiques étaient de grands rochers et des entrées de terriers. Dans l'ensemble, les goules se montrèrent plutôt respectueuses, même si l'une d'elles essaya de le pincer, tandis que plusieurs autres considérèrent sa maigreur d'un œil songeur. À force de borborygmes appliqués, Carter se renseigna sur son ami disparu et découvrit qu'il était devenu une goule d'une certaine importance dans les abîmes qui s'ouvrent à côté du monde de l'éveil. Une vieille goule verdâtre se proposa de le conduire au logis de Pickman. Aussi, malgré une répugnance bien naturelle, suivit-il la créature dans un vaste terrier où il rampa, de nombreuses heures durant, dans une obscurité jonchée de matière en putréfaction. Ils émergèrent au milieu d'une morne plaine, maculée d'étranges reliques de la terre, vieilles pierres tombales, urnes brisées, grotesques fragments de monuments. Non sans émotion, Carter comprit qu'il n'avait jamais été aussi proche du monde de l'éveil depuis qu'il avait descendu les 700 marches de la caverne de la flamme, vers la porte du sommeil profond. Là, sur une pierre tombale datée de 1768 et volée dans le Granary Burying Ground de Boston, était assise une goule qui avait jadis été l'artiste Richard Upton Pickman. Pickman était entièrement nu. Sa peau avait une texture caoutchouteuse. Sa physionomie était devenue si proche de celle des nécrophages que ses origines humaines étaient pratiquement indiscernables. Mais il se rappelait encore un peu d'anglais et fut capable de discuter avec Carter à l'aide de grognements et de monosyllabes, tout en ayant parfois recours au babillage des goules. Lorsqu'il apprit que Carter souhaitait se rendre au bois enchanté pour rallier Selefais en Haute-Nargaï, par-delà les montagnes tanariennes, il se montra plutôt dubitatif. Car ces goules proches du monde de l'éveil n'ont rien à faire dans les cimetières des hautes contrées du rêve. Elles laissent cela aux wamps, à pieds rouges, qui prolifèrent dans les villes mortes. Et un grand nombre d'obstacles se dressent entre leur abîme et le bois enchanté, notamment le terrible royaume des Gugs. Les Gugs, velus et gigantesques, élevèrent jadis plusieurs cercles de pierre dans ce bois, où ils offrirent d'étranges sacrifices aux autres dieux et à Nyarlathotep, le chaos rampant. Jusqu'à ce que, une nuit, les dieux de la terre ayant eu vent d'une de leurs abominations, ils fussent bannis dans les cavernes des mondes inférieurs. Seule une grande trappe de pierre munie d'un monstrueux anneau de fer, que les Gugs redoutent d'ouvrir à cause d'une malédiction, relie l'abîme des goules de la terre au bois enchanté. Qu'un mortel arpentant les contrées du rêve puisse traverser leur royaume de cavernes et en sortir par cette porte est inconcevable. En effet, ces intrépides voyageurs constituaient autrefois leur nourriture de prédilection, et les légendes des Gugs continuent d'évoquer ces mortels qui craquent sous la dent, même si, depuis leur exil, l'alimentation des Gugs se limite aux ghasts, ces répugnantes créatures qui vivent dans les caveaux de Dzin, sautent sur leurs longues pattes postérieures comme des kangourous et meurent si elles sont exposées à la lumière. Aussi, la goule qui était Pickman conseilla-t-elle à Carter de sortir de l'abîme à Sarcomand, cette cité abandonnée qui s'étend dans la vallée dominée par Leng, où de noirs escaliers salpêtrés, gardés par des lions ailés de diorite, conduisent des contrées du rêve jusqu'aux gouffres inférieurs. Sinon, il pouvait également regagner le monde de l'éveil en traversant un cimetière et recommencer sa quête depuis le début, en redescendant les 70 marches du sommeil léger qui mènent à la caverne de la flamme, puis les 700 marches qui conduisent à la porte du sommeil profond et au bois enchanté. Cette dernière solution, cependant, ne convenait pas à l'explorateur, car il ne connaissait rien de la route qui va de Leng en Haute Nargaï. Qui plus est, il redoutait, s'il se réveillait, d'oublier tout ce qu'il avait déjà accompli dans ce rêve. Il eût été désastreux pour sa quête d'oublier les visages augustes et célestes des marins venus du nord qui faisaient le commerce de l'onyx à Séléphaïs, et qui, étant les fils des dieux, devaient lui permettre de trouver la route des terres algides et de Kadat, où résident les Très-Hauts. Carter dut faire beaucoup d'efforts pour persuader la Goule de consentir à le guider à l'intérieur de la grande muraille du royaume des Gugues. S'il y pénétrait à une heure où les géants, rassasiés, seraient tous en train de ronfler chez eux, Carter aurait peut-être une chance de se faufiler entre les tours de pierre rondes de ce royaume crépusculaire. Il pourrait alors atteindre la tour centrale surmontée du signe de Kot, où s'enroule l'escalier montant jusqu'à cette trappe de pierre qui débouche sur le bois enchanté. Pikman consentit même à lui fournir 3 goules pour l'aider à soulever la trappe, en se servant d'une pierre tombale en guise de levier. En outre, les Gugs avaient vaguement peur des goules et s'enfuyaient de leur propre gigantesque cimetière quand ils les y voyaient festoyer. Pikman conseilla également à Carter de se déguiser en goule, autrement dit de raser la barbe qu'il s'était laissé pousser, car les goules n'en ont pas, de se rouler tout nu dans la pourriture pour obtenir l'apparence adéquate, d'en adopter la démarche clopinante, et de porter avec lui ses habits roulés dans un paquet comme s'ils étaient un morceau de choix dérobé dans une tombe. Ils atteindraient la cité des Gugues, qui coïncidait avec tout leur royaume, en se faufilant dans des terriers qui débouchaient dans un cimetière, non loin de la tour de Kot et de son escalier. Il leur faudrait cependant prendre garde à une grande caverne située tout à côté du cimetière, car il s'agissait de l'entrée des caveaux de Dzin. Or, les Ghasts, ces créatures fort agressives, y sont constamment à l'affût, prêts à massacrer les habitants de l'abîme supérieur qui les chassent et les prennent pour cible. Les Ghasts essayent toujours de sortir quand les Gugs font la sieste, et s'attaquent aussi bien aux Ghouls qu'aux Gugs, car ils sont incapables de les distinguer. Ils sont très primitifs et se dévorent les uns les autres. Les Gugs ont une sentinelle postée à l'entrée d'un goulet dans les caveaux de Dzin, mais elle est souvent assoupie et se laisse quelquefois surprendre par un groupe de Ghasts. Bien que ceux-ci ne puissent vivre à la lumière du jour, ils arrivent à supporter la grisaille de l'abîme plusieurs heures d'affilée. C'est ainsi que Carter se retrouva à ramper dans d'interminables terriers avec 3 goules bien utiles, chargés de la pierre tombale en ardoise du colonel Nepenya Derby, Hobbit 1719, prise dans le cimetière de Charter Street à Salem. Puis ils se retrouvèrent dans la lumière sépulcrale d'une forêt d'immenses monolithes rongés par le lichen. Ces monolithes, dont le sommet se perdait presque dans le ciel, étaient en réalité les modestes pierres tombales des Gugs. À la droite du trou dont ils s'étaient extraits en se tortillant, par-delà les formidables nefs latérales formées par ces alignements de monolithes, s'étendait un panorama stupéfiant où l'on voyait les gigantesques tours rondes se dresser à des hauteurs incommensurables dans les ténèbres de la terre intérieure. C'était l'incroyable cité des Gugs, aux portes de 30 pieds de haut. Les ghouls y viennent souvent, car un cadavre de Gug permet de sustenter une communauté de nécrophages pendant presque un an. Même en tenant compte du danger que cela comporte, il est plus intéressant pour les ghouls de creuser des terriers jusqu'aux tombes des Gugs que de s'enquiquiner avec celles des hommes. Carter comprenait enfin pourquoi il lui était arrivé de marcher sur des eaux titanesques dans la vallée de Pnot. À l'extérieur du cimetière, en face d'eux, se dressait une falaise à pic, au pied de laquelle s'ouvrait la gueule d'une caverne, immense et menaçante. Les ghouls sifflèrent à Carter qu'il valait mieux l'éviter, car il s'agissait de l'entrée des diaboliques caveaux de Dzin, où les gugues chassent les ghasts dans l'obscurité. Effectivement, cette mise en garde se justifia bien vite, car à l'instant même où une goule commençait à ramper vers les tours pour vérifier si c'était bien l'heure de la sieste des gugues, une première paire d'yeux rouges aux nuances jaunâtres, puis une deuxième, se mirent à luire à l'entrée des ténèbres de la grande caverne. Autrement dit, les gugues venaient de perdre une sentinelle, et les ghasts avaient un redoutable odorat. La goule revint donc vers leur terrier en faisant signe à ses compagnons de rester quoi. Mieux valait laisser les ghasts tranquilles. Peut-être s'en irait-il rapidement, puisqu'il y avait fort à parier qu'après avoir réglé son compte à la sentinelle des gugues, dans ses sombres caveaux, ils fussent épuisés et incapables de livrer un autre combat. Au bout d'un certain temps, une créature ayant à peu près la taille d'un petit cheval sortit en bondissant dans la pénombre. À la vue de cette bête obscène et malsaine, au visage si curieusement humain malgré l'absence de nez, de front et d'autres caractéristiques importantes, Carter eut un haut-le-cœur. Soudain, trois autres ghasts bondirent hors de la caverne pour rejoindre leurs camarades. Une goule babilla doucement à Carter que leur absence de cicatrice était mauvais signe. C'était la preuve qu'ils n'avaient pas combattu la sentinelle Gug, mais s'étaient contentés de se glisser derrière elle pendant son sommeil. Leur force et leur rage étaient toujours intactes et le resteraient tant qu'ils n'auraient pas trouvé de victime à éliminer. S'il était déjà particulièrement désagréable de voir ces répugnantes bestioles, si mal proportionnées et dont le nombre s'éleva bientôt à une quinzaine, fouiner un peu partout et sauter comme des kangourous parmi les tours et monolithes qui se dressaient dans ce crépuscule grisâtre, il fut encore plus abominable de les entendre converser dans la toux gutturale qui leur sert de langage. Pourtant, si horribles qu'ils fussent, ils ne l'étaient pas autant que ce qui surgissait maintenant derrière eux à une vitesse déconcertante. C'était une patte qui devait bien faire 2,5 pieds de large, terminée par des serres redoutables. Elle fut suivie d'une autre patte, puis d'un grand bras recouvert de fourrure noire auquel ces deux pattes étaient rattachées par de courts avant-bras. Deux yeux roses se mirent alors à scintiller, et l'énorme tête en forme de barrique de la sentinelle Gug réveillée apparut en oscillant. Les yeux saillaient de chaque côté d'une longueur de 2 pouces, protégés par 2 protubérances osseuses hérissées de poils durs. Mais si cette tête était tellement terrifiante, c'était surtout à cause de sa gueule, garnie de grands crocs jaunes, qui fendait la face de haut en bas, s'ouvrant verticalement et non horizontalement. Sans laisser à l'infortuné Gug le temps de faire un pas hors de la caverne et de se dresser de toute la hauteur de ses 20 pieds au-dessus des ghasts, ces créatures fort agressives s'étaient déjà jetées sur lui. Un instant, Carter craignit qu'il ne donne l'alarme et ne réveille ses semblables, mais une goule lui pépia à voix basse que les gugues n'avaient pas de voix et s'exprimaient au moyen d'expressions faciales. La bataille qui suivit fut des plus effrayantes. Les fielleuses bestioles se ruèrent fiévreusement sur le gugue qui rampait hors de la caverne et l'assaillirent de tous les côtés, le piétinant sauvagement avec leurs durs sabots pointus, le mordant et le déchirant avec leurs museaux. Tout en luttant, il ne cessait de tousser frénétiquement ou de pousser des hurlements quand la grande gueule verticale du gugue réussissait à les mordre. Ce tapage n'eût pas manqué de réveiller la cité endormie si la sentinelle, dont les forces faiblissaient, n'avait commencé à reculer toujours plus loin dans les entrailles de la caverne. Le tumulte s'enfonça donc dans l'obscurité, d'où parvenaient parfois quelques échos infernaux signalant la poursuite du combat. La goule la plus alerte leur donna alors le signal d'avancer, et Carter suivit les 3 créatures sautillantes. Ils traversèrent à vive allure la forêt de monolithes, puis gagnèrent les répugnantes rues sombres de l'horrible cité dont les gigantesques tours de pierre rondes s'élevaient à perte de vue. Puis ils clopinèrent en silence sur les grossiers pavés des rues, dégoûté par les abominables ronflements étouffés qui s'élevaient des immenses porches noires, signe que les gugus continuaient de dormir. De crainte que ne sonne bientôt l'heure de la fin de la sieste, les goules pressèrent le pas. Mais même ainsi, leur voyage prit un certain temps, car dans cette ville de géants, les distances sont à une échelle gigantesque. Ils finirent cependant par arriver à une sorte d'espace découvert qui s'étendait devant une tour beaucoup plus haute que les autres. Sa porte colossale était surmontée d'un symbole monstrueux, sculpté en bas-relief, dont la simple vue faisait trembler de peur alors même que l'on en ignorait la signification. C'était la tour centrale et le signe de Koth. Et ces énormes marches de pierre que l'on devinait dans la pénombre, à l'intérieur, formaient la base du grand escalier qui montait vers les hautes contrées du rêve et le bois enchanté. Ce fut alors le début d'une interminable ascension dans le noir absolu. Leur progression était rendue presque impossible par la taille monstrueuse des marches qui, adaptées aux gugues, mesuraient presque un mètre de hauteur. Carter fut incapable de les compter, car il se retrouva bientôt dans un tel état d'épuisement que les goules, infatigables et d'une souplesse incroyable, ne purent faire autrement que de l'aider. Tout au long de cette montée sans fin, ils furent hantés par la peur d'être découverts et pris en chasse. Car même si à cause de la malédiction des Très-Hauts, les gugus n'osent pas soulever la porte de pierre qui mène à la forêt, rien ne les empêche d'entrer dans la tour et d'en gravir l'escalier. D'ailleurs, ils y poursuivaient souvent les Ghasts qui s'y étaient réfugiés, jusqu'aux plus hautes marches s'il le fallait. Les gugus avaient l'ouïe si fine qu'ils risquaient fort d'entendre les bruits des pieds et des mains nues des grimpeurs sur les marches quand la cité s'éveillerait. Ces géants à la longue foulée, que leur chasse aux Ghasts dans les caveaux de Dzin avait habitués à voir dans l'obscurité, ne mettraient certainement pas longtemps à rattraper une proie plus petite et plus lente sur ces degrés cyclopéens. Les gugues pouvaient les poursuivre en silence, surgir des ténèbres sans crier gare et se jeter voracement sur eux. Idée particulièrement peu ragoûtante. On ne pouvait pas non plus compter sur la crainte que les goules inspirent traditionnellement aux gugues, car dans cet endroit si particulier, ceux-ci avaient largement l'avantage. Sans oublier le danger représenté par les Ghasts, ces créatures furtives et fielleuses qui venaient fréquemment faire un saut dans la tour pendant la sieste des gugues. Si celle-ci se prolongeait, et si les Ghasts ressortaient vite de leur combat dans leur caveau, alors ces monstruosités dégoûtantes et vicieuses risquaient de repérer facilement l'odeur des grimpeurs. Et dans ce cas, on avait presque intérêt à finir dévoré par un gugue. Soudain, après plusieurs siècles d'ascension, une toux résonna un peu plus haut dans l'obscurité. Prenant un tour inattendu, l'affaire se corsait sérieusement. Manifestement, un Ghast, voire un troupeau entier, était venu rôdailler dans cet escalier peu avant l'arrivée de Carter et de ses guides. Et de toute évidence, le danger était proche. Ils se figèrent une seconde. Puis la goule qui ouvrait la marche poussa Carter contre le mur et positionna ses compagnes aussi bien que possible, en levant la vieille pierre tombale, prête à l'abattre violemment dès que l'ennemi montrerait le bout de son nez. Les goules étant nyctalopes, leur petit groupe n'était pas en situation aussi périlleuse que si Carter avait été seul. Un moment plus tard, une cavalcade leur annonça qu'une bête, sinon plus, descendait. Les goules affermirent leur prise sur leur arme improvisée, prêtes à en asséner un coup foudroyant. Soudain, l'éclat rouge jaunâtre de deux yeux scintillants apparut dans l'obscurité et la sourde respiration d'un Ghast se fit entendre par-dessus ses claquements de sabots. Lorsqu'il sauta sur la marche située juste au-dessus d'eux, les nécrophages abattirent l'antique pierre tombale avec une force prodigieuse. Il y eut un sifflement accompagné d'un bruit étranglé, puis la victime s'effondra en un tas répugnant. Il ne semblait pas y avoir d'autre animal. Après avoir tendu l'oreille un moment pour déceler la présence éventuelle d'autres agresseurs, les goules tapotèrent l'épaule de Carter pour lui signaler de se remettre à grimper. Une fois de plus, les goules furent obligés de l'aider, et Carter se réjouit de quitter ce lieu de carnage où les restes grossiers du ghast gisaient, invisibles, dans le noir. Au bout d'un certain temps, les nécrophages s'arrêtèrent et déposèrent leurs compagnons. En tâtonnant au-dessus de lui, Carter se rendit compte qu'ils avaient enfin atteint la grande trappe de pierre. Inutile d'espérer réussir à ouvrir complètement quelque chose d'aussi énorme, mais les goules pensaient pouvoir la soulever suffisamment pour y glisser la pierre tombale et s'en servir comme d'un levier pour permettre à Carter de s'échapper par la fente ainsi pratiquée. De leur côté, elles avaient prévu, pour rentrer chez elles, de repasser par la ville des Gugues. Insaisissables comme elles l'étaient, elles pourraient aisément échapper à l'ennemi. En outre, elles ne connaissaient pas la route qui, à la surface, conduit à Sarcomande, cité spectrale où des lions gardent un escalier descendant vers l'abîme. Aidées de Carter qui y mettait toutes ses forces, les trois goules déployèrent de formidables efforts pour ouvrir la trappe de pierre au-dessus de leur tête. Seule en elle, le bord qu'il fallait soulever était situé juste en haut de l'escalier. Et c'est à cela qu'elles consacrèrent la force de leurs muscles nourris de façon déshonorante. Bientôt, une fente lumineuse se dessina. Alors Carter, à qui cette tâche avait été confiée, glissa l'une des extrémités de la vieille pierre tombale dans l'ouverture. Ils exercèrent ensuite sur la dalle une pression herculéenne. Mais ils progressaient d'autant plus lentement qu'ils étaient contraints, naturellement, de tout recommencer depuis le début chaque fois qu'ils échouaient à faire pivoter la pierre tombale pour bloquer la trappe en position ouverte. Soudain, ils entendirent du bruit sur les marches, en dessous, et leur désespoir fut multiplié par mille. Or, ce n'était que le bruit sourd du cadavre du ghast dévalant l'escalier mêlé du cliquetis de ses sabots sur la pierre. Mais de toutes les causes susceptibles d'expliquer pourquoi il avait été déplacé et dégringolait les marches, aucune n'était rassurante. Connaissant par avance l'accueil que leur réserveraient les Gugues s'ils les trouvaient, les goules se remirent frénétiquement au travail et réussirent à soulever la trappe en un temps record, si haut qu'elles purent la maintenir en place pendant que Carter faisait pivoter la dalle et ménageait une ouverture généreuse. Puis elles aidèrent Carter à se faufiler au dehors, en le laissant d'abord grimper sur leurs épaules caoutchouteuses avant de le pousser par les pieds au moment où il agrippait le sol béni des hautes contrées du rêve. Elles sortirent à leur tour dans la seconde qui suivit, jetèrent la pierre tombale au loin et refermèrent la grande trappe à l'instant même où un halètement commençait à se faire entendre juste en dessous. La malédiction des Très-Hauts interdisant aux Gugues de quitter la tour, Carter poussa un intense soupir de soulagement et s'allongea, pour un repos bien mérité, sur les épais et grotesques champignons du bois enchanté, tandis que ses guides s'accroupissaient tout près de lui, dans l'attitude de repos propre aux goules.